Vous écoutez
RMC.
Vendredi 9 décembre,
l'info sur RMC.
Il est presque 7h dans une poignée de secondes. Excellent réveil à vous tous qui nous écoutez sur RMC, qui nous regardez sur RMC Story. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Paris, quelques heures à la bougie. Panne de courant hier dans le centre. 125 000 foyers touchés. Pas de tension sur les lignes, mais un problème technique. C'est une information RMC. La 9e vague de Covid contamine les EHPAD. Plus de 25% de contamination en une semaine. Et puis J-1 avant le choc France-Angleterre. L'engouement de l'autre côté de la Manche, les maillots des Three Lions s'arrachent.
Hier soir, les Parisiens ont cru qu'ils vivaient leur premier délestage.
4 arrondissements du centre, très fréquentés, se sont retrouvés plongés dans le noir vers 22h. Une coupure de courant qui intervient dans un contexte très particulier, à un moment de grand froid, où l'on redoute les tensions sur les lignes électriques. Mais selon les gestionnaires du réseau, il s'agit seulement d'un incident technique. Une première expérience pour les Parisiens d'une soirée sans électricité, Romain Houg.
L'horloge affichait presque 22h15 hier soir dans le restaurant d'Alex quand tout à coup plus de courant. Des clients qui se retrouvent dans le noir, à table, même chose en cuisine, c'est le blackout total.
Plus de machines pour toutes les tables qui sont en cours, plus de TPE, voilà, les frigos qui refroidissent plus, plus de musique, plus de lumière. Des gens qui étaient en train de manger, qui ont mangé avec leur flash. Donc enfin, en gros, on peut plus rien faire. Mais il y en a quand même une table qui est partie sans payer, voilà.
En fait, c'est tout le quartier qui est concerné et même 4 arrondissements de la capitale. Au total, 125 000 foyers ont été privés de courant jusqu'à 40 minutes, tout comme des rues entières plongées dans l'obscurité. Plus de feux de circulation, plus de lampadaires, des immeubles complètement éteints. Alors, rapidement, certains s'interrogent, mais rien à voir néanmoins avec les délestages dont on parle beaucoup en ce moment et qui pourraient arriver au cours de l'hiver. Il s'agit d'un accident sur un transformateur, nous dit Enedis, accident ayant provoqué la coupure d'une ligne à haute tension. Le courant a été rétabli intégralement au cours de la nuit.
Dans ce contexte, deux informations qui nous viennent d'EDF. La première, encourageante, ça se confirme, notre consommation électrique baisse de 10% en un an. Pour les clients EDF par rapport à novembre 2021, une autre plus inquiétante, le redémarrage des réacteurs nucléaires prend du retard. EDF confirme que 18 des 56 réacteurs français sont toujours à l'arrêt pour maintenance ou réparation. On en vient à cette information RMC, le retour des EHPAD confinés, signe que la 9e vague de Covid est bien là. On compte en ce moment une 60aine de clusters dans ces établissements. Le nombre de cas de contamination a augmenté de 25% en une semaine. Pas question pour autant de priver les résidents de visite. C'est ce qu'explique sur RMC le président de l'association des directeurs d'EHPAD, Pascal Chanvert.
Nous sommes résolument en désaccord. Il ne s'agit pas d'interdire aux familles de venir voir leurs aînés, ni aux personnes âgées de pouvoir sortir à tout moment de l'année et encore moins à la veille des périodes de fêtes de fin d'année. Nous l'appréhendons comme une maladie comme les autres. Il faut bien voir qu'on n'est plus du tout dans la situation de 2020. Aujourd'hui, toutes les personnes âgées ont au moins 3 doses de vaccin. Et puis, quand il y aura un grand nombre de visiteurs, dans certains cas, peut-être faudra-t-il envisager de reporter le masque.
Le ministère de la Santé, de son côté, appelle à accélérer les rappels de vaccination. Seuls 20% des résidents sont totalement protégés et à respecter les gestes barrières. D'ailleurs, hier, le président de la République a montré l'exemple. Lors d'un déplacement dans la Vienne, il s'est affiché masqué, appelant à reprendre les bonnes habitudes sur la base du volontariat. Sortez couverts, c'est décidément le message d'Emmanuel Macron en ce moment. Cette annonce aussi sur son compte Twitter, les préservatifs gratuits pour les 18-25 ans l'année prochaine. Mesure très attendue par les associations, alors que le nombre de MST a quasiment doublé en 3 ans entre 2017 et 2019, et mesure saluée par les jeunes aussi, Romain Poiseau.
À 18 ans, comme Lucas, acheter des préservatifs peut parfois s'avérer compliqué.
On ne peut pas tous mettre 12 euros par semaine ou par mois en fonction d'eux dans une boîte de préservatifs.
Une boîte de 12 par semaine, c'est déjà une bonne moyenne. Mais à partir de 2023, que les gros consommateurs se rassurent, tous les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans. Une excellente nouvelle pour Carla, 20 ans.
C'est de première nécessité et donc du coup, c'est important que ce soit gratuit, je pense. L'accès va y être plus facile et je pense que ouais, les gens vont plus se protéger.
Et surtout, les jeunes de moins de 25 ans, population à risque selon Florence Thune, directrice générale de Sidaction.
On a vu que sur les personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2021, 15% avaient moins de 25 ans. Néanmoins, on sait tous que la sexualité commence avant 18 ans, donc la question est de savoir pourquoi pas les moins de 18 ans. On en serait d'autant plus ravis.
Pour bénéficier de cette gratuité, une pièce d'identité devrait être demandée au comptoir de la pharmacie en échange de sa précieuse boîte de latex.
Les Français appelés à débattre sur la fin de vie, une convention citoyenne est lancée aujourd'hui par Elisabeth Borne, la Première Ministre à Paris. 3 mois de débat avec 173 citoyens tirés au sort. On y revient dans le détail dans votre journal de 7h30. Et puis on vient de l'apprendre, les pompiers russes luttent contre un incendie de 7000 m² qui a démarré cette nuit dans un centre commercial de la banlieue de Moscou. Les services d'urgence soupçonnent un acte criminel.
RMC Coupe du Monde 2022.
Quart de finale, on y est, Croatie, Brésil, puis Pays-Bas, Argentine aujourd'hui. Ça commence très fort et ça continue encore plus fort demain, 20h. Les Bleus jouent leur place en demi-finale face à l'Angleterre. On va tout de suite traverser la Manche, retrouver Alfred Orange, notre reporter RMC, qui a accepté de se frotter à la ferveur des supporters anglais.
Quoi de plus beau que de rentrer dans une boutique de maillots et de se faire chambrer aussitôt ? It's coming home, c'est un peu la version britannique de ramener la coupe à la maison. Dans les rayons où trônent les maillots des plus illustres joueurs anglais, c'est l'excitation.
Ok, je te le prends en rouge, ça va ?
Cameron est venu prendre un maillot de l'Angleterre pour un ami à lui.
Et il habite dans un endroit paumé, donc je suis venu en chercher un pour le match de samedi.
Mondial en décembre oblige, Jack est lui venu chercher de quoi supporter son équipe sans grelotter.
J'ai trouvé un pull de Noël aux couleurs de l'Angleterre.
C'est un mois spécial et on va revenir avec la coupe. J'attends ça avec impatience.
Depuis la victoire des Three Lions en 8e, James, le gérant, voit de plus en plus de clients pris par l'engouement du mondial.
Sur les ventes d'articles de la sélection anglaise, on est sur une augmentation de 500%. Les chiffres sont fous. Tout ce que je vends, c'est lié à l'équipe nationale.
Et il prédit déjà une rupture de stock si les Anglais s'imposent demain.
Alfred Orange pour RMC. Céline Dion, victime d'une maladie rare. La star annule ses concerts, elle l'a annoncé hier sur Instagram.
Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome.
La voix pleine de sanglots, Céline Dion a prévenu ses fans. 8 concerts annulés, dont celui des Vieilles Charrues, prévu cet été en Bretagne. 55 000 billets avaient été vendus. Et le directeur du festival, Jérôme Tréorel, s'inquiète de ne pas pouvoir reporter le concert. Écoutez.
Déjà, on pense bien à Céline Dion et on espère qu'elle va aller mieux le plus rapidement possible. Et là où c'est vraiment rageant, c'est qu'on avait déjà depuis plusieurs semaines envisagé un report pour 2024. Et en fait, l'annulation a été prononcée par la production du fait de l'incertitude qui plane en France sur l'été 2024 avec la coactivité des Jeux Olympiques. Donc c'est surtout en ça qu'on est vraiment affecté pour nous, l'équipe du festival. Et surtout, on va rembourser l'ensemble des 55 000 billets des festivaliers qui avaient à 99% gardé leurs billets depuis septembre 2019.
Et pour ceux qui habitent en région parisienne, sachez que vous êtes chanceux puisque les dates parisiennes de la tournée de Céline Dion, elles ne sont pas annulées entre le 1er et le 10 septembre.
Et donc, on croise les doigts, évidemment. Il est 7h07, c'était le journal de Marguerite Dumont.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabas. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Ce matin, vous nous reparlez de Pauline. Pauline, c'est cette maman qui se bat depuis des mois pour récupérer sa fille qui avait été placée en famille d'accueil.
En début d'année, après une alerte de sa crèche, Louise, 2 ans et demi à l'époque, dénonce des violences sexuelles de la part de son père. Sa mère Pauline, voulant la protéger, contacte les services sociaux et porte plainte contre son ex-conjoint. Mais contre toute attente, en mai dernier, Louise est retirée de chez sa mère. Motif invoqué par la juge, conflit parental. Autrement dit, on reproche aux deux parents de ne plus réussir à s'entendre. Depuis, la plainte pour inceste a été classée sans suite. Pour le procureur, il n'y a pas suffisamment de preuves. Louise est passée par 5 familles d'accueil différentes. Pauline a déposé de nombreux recours. Et la semaine dernière, la juge pour enfants à Orléans a tranché. Louise peut revenir vivre chez sa mère.
On a tellement de choses à faire et à rattraper. Je suis impatiente surtout de pouvoir aller la chercher à l'école. Ça me le demande beaucoup. J'ai pas eu le droit d'être là pour sa rentrée, donc ça, j'ai vraiment hâte. Hâte d'avoir le droit de redevenir sa maman. Parce qu'on me dépossède de ma maternité.
Le père de Louise pourra la voir chez lui un week-end sur deux.
Et donc, Louise va rapidement quitter sa famille d'accueil et aller retrouver sa mère ?
En fait, c'est plus compliqué. Louise a le droit de revenir chez sa mère, mais toujours avec un suivi de l'aide sociale à l'enfance. Et en attendant la mise en place de ce dispositif, Louise reste en famille d'accueil. Elle ne pourrait retourner chez sa mère que dans 4 ou 5 mois.
On m'a beaucoup donné l'espoir que j'allais la récupérer très vite. Et puis ensuite, finalement, ça se passe pas comme prévu. On a annoncé à ma fille aussi qu'elle allait rentrer. On lui a dit, tiens bon, plus que 2 semaines, quand elle pleurait pour me retrouver. Là, j'ai peur. J'ai peur de pas la retrouver. J'ai peur de la reperdre. C'est un parcours du combattant. Et on encaisse les coups sans cesse. Il faut tenir bon.
Et ce retour de Louise chez sa mère est une mesure provisoire. Dans un an, un juge devra à nouveau statuer sur ce dossier.
Donc on imagine que Pauline, elle continue le combat.
Absolument, pour elle et pour toutes les autres. Depuis notre premier reportage en septembre, Maître Rongier, l'avocate de Pauline, reçoit au moins un appel par jour de mamans dans la même situation. Des femmes qui, en dénonçant les violences de leurs conjoints ou ex-compagnons, se retrouvent privées de la garde de leurs enfants.
Pourquoi remettre systématiquement en cause la parole des enfants, des mères? Pourquoi il y a autant de classements sans suite sur les plaintes pour inceste? Ça doit être plus simple de penser qu'une mère manipule son enfant plutôt qu'un père viole son enfant. Et puis je pense aussi à toutes les mères qui ne parlent pas, qui choisissent de se taire sur des incestes dont elles ont connaissance parce que elles ont la peur au ventre que si elles partent, si elles parlent, on va leur retirer leur enfant. Et que leur enfant sera encore moins protégé. C'est pas supportable. Il faut que la justice fonctionne et que la justice protège.
Maître Pauline Rongier publiera ce soir une lettre ouverte adressée au président de la République et au gouvernement. Une lettre co-signée par plusieurs associations dont Innocence en danger et Protéger l'enfant pour demander une meilleure considération des victimes d'inceste.
Et vous connaissez le chemin donc, comme Pauline, vous écrivez à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr. Merci Johanna. Il est 7h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Fréjus qui suspend les subventions pour tout un quartier, le quartier de la Gabelle. Réaction après les désordres autour de la victoire du Maroc face à l'Espagne. Le maire de la ville, le maire de Fréjus, maire Rassemblement National, David Rachine, sera avec moi en direct dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC. Bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est vous, David Rachine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Rassemblement National de Fréjus, dans le Var, et après le président de l'agglomération, qui a décidé de suspendre les subventions de l'agglomération pour le quartier de la Gabelle, eh bien, vous avez décidé de faire de même du côté de la mairie, suspendre donc toutes les subventions de ce quartier. Décision prise après les échauffourées dans ce quartier, après la victoire du Maroc face à l'Espagne. Concrètement, de quoi on parle ? Il y a eu certes des incidents, mais aucune interpellation, aucun blessé. Est-ce que c'est pas un peu un prétexte quand même, David Rachline ?
Non, pas du tout. Vous savez, ce style d'incidents ont lieu malheureusement très régulièrement, trop régulièrement. C'est la police qui est victime de ces exactions. C'est évidemment les habitants qui se prennent des pierres, des mortiers et autres. Et c'est une situation qui n'est pas tolérable.
Donc ça veut dire que pour vous, c'est l'incident de trop, en fait. C'est pas tant ce qui s'est passé absolument ce soir-là, c'est que ça arrive dans un contexte, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Vous savez, depuis ces dernières années, nous avons dépensé des millions d'euros pour ce quartier, sans que jamais nous ayons le retour en face en ce qui concerne la sécurité. Et nous lançons là un message d'alerte. Nous disons aux parents, nous disons à la population, il faut maintenant prendre en main ces jeunes-là. On va vous y aider, évidemment, mais il faut une réaction de votre part. Et nous disons aussi aux services de l'État, mettez les moyens en face pour ce qui concerne la sécurité publique. On ne peut pas continuer de cette manière avec aussi peu de policiers nationaux qui ne peuvent plus faire leur travail dans de bonnes conditions aujourd'hui.
En fait, vous voulez produire une sorte de choc de conscience, alors à la fois chez les habitants, on l'entend bien, mais aussi vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire, vous considérez que l'État est responsable de ne pas avoir fait régner l'ordre ?
Mais complètement, c'est son rôle, l'ordre public. C'est lui qui doit assurer la sécurité de nos compatriotes. Nous mettons, nous, les moyens autant que nous pouvons pour la police municipale, de nos polices municipales d'ailleurs, aussi bien à Fréjus qu'à Saint-Raphaël. Mais aujourd'hui, l'État est démissionnaire, en quelque sorte. Aussi bien sur le plan de la sécurité publique de la police, je le disais, que sur le plan de la justice. Car une fois ces personnes interpellées, la plupart du temps, elles ressortent au bout de quelques heures de procédure. Donc je crois que maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités et cesse de laisser les collectivités territoriales dans le dénuement le plus total. C'est vrai à Fréjus, mais malheureusement, on le voit bien dans vos émissions et autres, c'est vrai aussi dans de nombreuses autres collectivités.
Mais dans le même temps, quand même, David Rachine, vous dites on va les aider, mais enfin, à court terme, c'est quand même... Alors, du côté de l'agglomération, on a le détail, c'est 69 000 euros de subventions qui vont être supprimés. Il y avait 11 000 euros pour des cours de français et de soutien aux femmes et 20 000 euros pour la création d'une micro-crèche sur le quartier. On a du mal à voir comment, en enlevant ces subventions-là, qui sont en l'occurrence notamment pour les familles, hein, pour les femmes et les enfants, ça va vraiment améliorer les choses. C'est pour réveiller les parents, quoi.
C'est pour réveiller les consciences, bien sûr, pour réveiller les parents, pour réveiller les habitants, pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils dénoncent tout cela. On a dépensé, je vous le disais tout à l'heure, 30 millions d'euros dans le cadre de rénovations urbaines diverses et variées. Avec quel résultat? Avec le résultat de voir toujours ces dizaines de jeunes continuer à produire
des incidents.
Des incidents qui sont très graves. Hein. On passe parfois à côté de drames. Je vous dis, des policiers attaqués au mortier, des habitants de la commune et des communes voisines attaqués avec des pierres et compagnie. C'est une situation, encore une fois, que connaissent de nombreuses communes, mais nous ne voulons plus l'accepter.
Demain, c'est le quart de finale Maroc-Portugal. Vous vous attendez à de nouveaux incidents?
Bah écoutez, en tout cas, nous allons faire le maximum pour que les choses se passent convenablement, mais nous craignons toujours des incidents, oui, bien sûr.
Est-ce que l'État vous a répondu? Est-ce que depuis que vous avez annoncé que vous alliez suspendre les subventions en appelant l'État à jouer son rôle, est-ce que le ministère de l'Intérieur vous ont répondu?
Écoutez, moi j'ai demandé la qualification du quartier en quartier de reconquête républicaine. J'ai eu un coup de téléphone de la préfecture hier soir pour envisager une réunion ces jours-ci. C'est une très bonne nouvelle.
David Rachline, maire Rassemblement National de Fréjus dans le Var, merci d'avoir été avec nous en direct, il est 7h17.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À 7h40, dans une grosse vingtaine de minutes maintenant, l'invité du jour, ce sera Jean-Philippe André, c'est le président de tous les industriels de l'agroalimentaire. On va parler guerre des prix, énergie, coupure de courant et même pénurie à venir dans nos rayons. Mais avant cela, il y aura le regard d'Emmanuel Lechypre sur l'économie. Il va nous parler de la profession d'influenceur, scruté aujourd'hui par Bercy, et Arnaud Demange qui passe par le 32-16.
Apolline Matin, l'indiscret RMC.
Et tout de suite, le rendez-vous du service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Hélène, demain, le parti Europe Écologie Les Verts aura une nouvelle patronne. Ça sera sans suspense, hein, Marine Tondelier. Et déjà, Sandrine Rousseau fait bande à part.
La députée écologiste trace sa route et ne compte pas s'arrêter à la défaite qu'elle a subie pendant le congrès des écologistes. La liste qu'elle soutient est arrivée en troisième position. C'est le signe de l'impact très faible de Sandrine Rousseau sur le parti. Voilà ce que l'on me dit chez l'un de ses opposants. Pourtant, la nouvelle leader, Marine Tondelier, veut rassembler, tourner la page du clivage, Jadot-Rousseau, réunir les différentes sensibilités. Mais voilà, la bande à Rousseau, l'aile gauche, a quitté pour le moment la table des négos, comme on dit, pas contente des postes qui lui sont attribués. Il y a donc des divergences hein, sur le fond entre les partisans de Sandrine Rousseau et les autres. Les pro-Rousseau plaident pour un renforcement de la NUPES. Ils lorgnent d'ailleurs sur le poste clé de chargé de relations avec la NUPES que l'on ne veut pas leur donner. Question de confiance. Les gagnants du congrès veulent plutôt créer un grand mouvement écologiste fort. D'ailleurs, ils souhaitent mener une liste indépendante aux européennes. Sandrine Rousseau préfère une liste commune avec la NUPES. Mais attention, le dialogue n'est pas rompu. On veut construire ensemble, dit une proche de Sandrine Rousseau. La vérité, c'est que c'est une députée brillante, qu'elle est utile au parti. Alors, enterrons la hache de guerre.
Enterrons la hache de guerre. Ce qui est frappant, c'est que dès qu'on reçoit Sandrine Rousseau, comme ça a été mon cas cette semaine, il y a ceux qui vous disent on l'entend trop, il y a ceux qui vous disent on l'entend pas assez. En tout cas, c'était la première fois pour ma part que je l'invitais à 8h30. Hélène Terzian du service politique.
RMC, Apolline Matin.
7h21, place à l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel. Le ministère de l'économie réunit aujourd'hui les acteurs du marché de l'influence, tous les influenceurs, pour tenter de mettre de l'ordre dans leurs pratiques. C'est un marché qui pèse combien d'abord?
Alors d'abord, on va rappeler que les influenceurs, hein, ce sont ces personnalités plus ou moins célèbres qui sont payées pour faire de la promotion de produits sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et c'est un marché qui pèse quand même plus de 16 milliards d'euros.
Ah ouais.
C'est un marché qui n'existait quasiment pas en 2015. Ça a été vraiment l'explosion au cours des dernières années. Alors il y a l'agence Call Square qui distingue 5 profils d'influenceurs au plus bas de l'échelle. Vous avez vraiment les petits influenceurs.
Les nano-influenceurs.
ils ont moins de 10 000 abonnés. Mmh. Là, quand ils postent quelque chose pour faire de la promo, c'est 165 euros. Et puis, au sommet, vous avez les top influenceurs. Alors là, ils ont plus de 3 millions de followers, par exemple, sur Twitter. Et ça donne 25 000 euros le poste. Et songez quand même que les tarifs, là aussi, il y a une sévère inflation, puisque ça augmente à peu près de 20% par an.
Alors, si les prix augmentent, c'est que les résultats pour les entreprises sont bons, j'imagine, parce que sinon, ils ne paieraient pas.
Eh oui, excellent, excellent. Les entreprises faisant leur publicité grâce aux influenceurs peuvent engranger entre 6 et 18 euros de gains pour 1 euro investi. C'est ce que nous dit le cabinet Oberlo. Alors, principalement à travers la conquête de nouveaux clients, c'est bien plus que ce que rapporte, par exemple, la publicité par email ou la publicité toute simple sur les réseaux sociaux. Les secteurs de prédilection des influenceurs, c'est la mode, 25% des publications sponsorisées. Et ensuite, c'est la cuisine, 12%. Et à noter, 3 influenceurs sur 4 sont des influenceuses.
Alors, ils veulent réguler ce secteur. Est-ce que c'est possible?
Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est le Far West. Hein. Aucune régulation des relations entre les influenceurs, les marques, leurs agents. Pas de contraintes de transparence qui débouchent parfois sur des abus, voire sur des escroqueries avec la promotion de contrefaçons, par exemple. Même Magali Berda, qui est à la tête de la plus puissante agence d'influenceurs, Shona Events, appelle, elle aussi, à mieux encadrer les placements de produits sur les réseaux sociaux. Le secteur a tout à gagner à s'engager dans cette voie de la transparence.
Parce que pour l'instant, c'est le Far West. Voilà ce que je retiens. Emmanuel, Le Chypre, il est 7h24 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Demange pirate, le 32-16.
Attention, il est là. Arnaud Demange qui est passé par le standard. Bonjour, cher Arnaud.
Bonjour.
Ce qui fait réagir ce matin, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé que les préservatifs seraient gratuits pour les 18-25 ans dans toutes les pharmacies à partir de 2023.
Oui, Emmanuel Macron anticipe les coupures de courant. Il a bien senti que les jeunes voudraient s'occuper dans le noir. C'est normal. C'est assez révolutionnaire. J'ai demandé son avis à Benjamin Duhamel.
Notre
éditorialiste politique de 19 ans, vous savez, celui qui est surdoué. Alors, il avait fini de lire un livre sur Édouard Balladur, il était dispo, il était juste en train de planter des fleurs dans Animal Crossing New Horizon. Alors, je lui ai dit, t'as vu, Benjamin, les préservatifs sont gratuits. Il m'a dit, les quoi? Les préservatifs, tu sais, les trucs pour faire l'amour. Pour faire quoi? Je comprends pas un mot de ce que tu racontes. Pardon. Au fait, j'ai fini d'écrire une biographie de Raymond Barre. Tu voudrais pas la lire et me dire ce que t'en penses? Pardon, excuse-moi. Evelyne de Rouen nous dit « On va avoir besoin de jeunes pour payer nos retraites. C'est pas le moment de distribuer gratuitement des contraceptifs. » Il y en a qui voient leur intérêt.
Voilà.
Ophélie, qui est pharmacienne dans les Alpes-Maritimes, oui, nous a laissé « Cher Charlemagnien, je suis la pharmacienne en bas de chez vous. Je tiens à vous rappeler que cette gratuité ne concerne que les gens de 18 à 25 ans. Néanmoins, j'ai réservé une dizaine de boîtes à votre attention. Elles sont sur ma table de nuit et mon numéro est le 06 22 31 40. Quel charmeur, notre Charlemagnien. Édouard, qui est étudiant, nous dit « Je suis étudiant précaire, je n'ai rien à manger et en nous distribuant gratos des préservatifs à la vanille, au moins on aura l'impression de faire un repas. » Bah, c'est mieux que rien, effectivement. Et enfin, la marque Durex nous a laissé un message. « Cher RMC, la maison Durex est désireuse d'innover et de faire découvrir à ses usagers de nouveaux plaisirs. Voilà pourquoi nous aimerions sortir une nouvelle gamme de préservatifs saveur RMC. Des préservatifs goût charlemagnien, goût Emmanuel Léchy, saveur Daniel Riolo, parfum Jean Rességuier, miam miam c'est Eric Dimeco, c'est délicieux, c'est Paul Henry dans la régie. Si ce partenariat vous intéresse,
j'achète.
Bon, on verra. Je vois que c'est controversé, c'est clivant comme proposition. On le sent,
c'est bien clivant là.
C'est clivant. Allez, à tout à l'heure.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h20. Tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h26. Il est 7h30 tout pile sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. L'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une nouvelle convention citoyenne, cette fois consacrée à la fin de vie. Elle est lancée aujourd'hui. Vous allez entendre un témoignage ce matin sur RMC. Du retard dans le calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires au lendemain d'une coupure géante à Paris. Et puis le Brésil et l'Argentine en quart de finale ce soir du Mondial.
Un témoignage poignant ce matin sur RMC.
On va reparler de la fin de vie aujourd'hui avec le lancement d'une convention citoyenne sur le sujet. Comme celle sur le climat, 200 citoyens tirés au sort qui vont plancher jusqu'en fin d'année prochaine sur cette douloureuse question de l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, les pratiques interdites en France. Ce qui pousse d'ailleurs des Français chaque année à aller à l'étranger pour mourir sans souffrir. C'est ce qu'a fait un certain Guy. C'était en septembre dernier. Il avait d'ailleurs interpellé Emmanuel Macron lors d'un déplacement près de La Rochelle pendant la campagne présidentielle. Moment marquant de cette campagne, Emmanuel Macron lui avait même adressé une lettre dans laquelle il se disait favorable à une évolution de la loi. Et bien avant le lancement aujourd'hui de cette convention citoyenne, le compagnon de Guy a accepté de témoigner ce matin au micro RMC de Nicolas Trénaud.
Pascal a placé une photo de lui et de Guy en arrière-plan avant de nous parler. Deux hommes souriants, serrés l'un contre l'autre en souvenir de leurs 16 ans de bonheur. Avant, la paralysie des jambes, puis des bras de Guy causée en un an et demi par la maladie de Charcot, incurable.
Il me disait régulièrement qu'il avait l'impression d'être dans une camisole de force, quoi. Et par rapport à ses enfants et ses petits-enfants, ne plus pouvoir s'exprimer, c'était impensable pour lui. Et fin août, il commençait à avoir des difficultés d'élocution et de déglutition, et c'est là qu'il a décidé de partir.
Le couple se renseigne, mais la santé de Guy n'est pas assez dégradée selon la loi. Il s'est donc rendu en Belgique en septembre, entouré de sa famille.
Même cette fin-là, choisie en Belgique, était difficile.
Une injection létale et encadrée, rien de tel n'est possible en France, où les soignants peuvent seulement endormir le patient en toute fin de vie et couper l'alimentation.
Et c'est cruel, on ne fait pas mourir, on laisse mourir. Et il a pu dire en Belgique au revoir à tous ses enfants. Et entre le moment où il est parti et le moment où j'ai récupéré les cendres, je me dis, mais il y a une chose qui ne fonctionne pas chez nous.
Pascal a peur que la convention citoyenne suscite de faux espoirs. Mais il se raccroche à la lettre écrite par Emmanuel Macron, lui confiant que, comme lui, il n'oubliera pas Guy.
Il est 7h32 sur RMC et l'électricité est revenue ce matin à Paris. Elle est revenue après la coupure de courant géante qui a touché jusqu'à 120 000 Parisiens hier soir. Quasiment 200 rues dans les 3, 4, 5 et 14e arrondissements de la capitale, le Marais, Saint-Germain, tout le centre en fait de Paris qui était privé d'électricité. Ce n'était pas un délestage, on le redoute, vous le savez, mais une avarie sur un transformateur, c'est ce que dit RTE qui présente ses excuses. Et alors ça tombe en pleine crise de l'énergie, des mois qu'on en parle, juste avant un week-end de grand froid, nous disait Géraldine, ça tombe mal. Romain Houck pour RMC. 18 des 56 réacteurs nucléaires en France sont toujours à l'arrêt. Il y a du retard dans le calendrier de redémarrage.
Oui, 38 réacteurs en fonctionnement sur 56. Ça veut dire que le parc nucléaire français fournit en électricité 62% de ce qu'il est capable de produire. C'est tout simplement 10 points de moins que ce que EDF avait prévu il y a un mois sur son programme de redémarrage. Ça devait être 72%. Un retard à l'allumage qui tombe au plus mal alors que les températures vont, elles, encore tomber dans le négatif même ce week-end et en début de semaine prochaine. Néanmoins, EDF assure que deux réacteurs vont repartir d'ici là, celui de la centrale de Dampierre ce matin, puis demain un réacteur au Bugey, ce qui portera donc à 40 le nombre de réacteurs en fonctionnement lors de la journée de lundi, journée sous surveillance, puisque ce lundi sera le premier jour tendu de la saison pour le réseau électrique français. Ecowatt pourrait déclencher une alerte orange, incitant d'ailleurs les Français et les entreprises à prendre des mesures pour économiser de l'énergie. Si tel est le cas, Ecowatt devrait d'ores et déjà l'annoncer dans la journée.
Alors pourtant les Français font des efforts dans leur consommation d'électricité en baisse de 10%. En novembre par rapport à il y a un an, ce sont les nouveaux chiffres d'EDF ce matin et c'est aujourd'hui que RTE va simuler des délestages avec un test grandeur nature. C'était prévu. Bordeaux prévoit de réduire de moitié son éclairage public en janvier et Nice assure eh bien que la prise assure qu'il prendra en charge les enfants en cas de coupure cet hiver. Il est 7h34 sur RMC et une enquête est ouverte à Châlons-en-Champagne après une partie de chasse. Pourquoi ? Parce qu'un enfant a été incité et même filmé en train d'achever un sanglier. C'était le mois dernier. Alors la chasse est autorisée, mais pas inciter un enfant à abattre un animal. D'où cette enquête ouverte pour provocation et abandon moral de mineurs. Bettina de Guglielmo nous raconte cette vidéo pour RMC.
Sur la vidéo, on y voit le sanglier pris au piège dans des ronces et encerclé de chiens de chasse. On entend la voix d'un chasseur, le père de l'enfant. Il ordonne à son fils, insiste à plusieurs reprises de poignarder l'animal. L'enfant d'une dizaine d'années s'exécute, s'y reprend à plusieurs reprises. L'animal agonise. Cette vidéo, postée fin novembre par le père de famille, est repérée par une association anti-chasse qui a porté plainte. Une enquête est ouverte pour provocation de mineurs à la commission d'un délit et abandon moral de mineurs. Selon le code pénal, le fait de provoquer un enfant enfant à commettre un crime ou un délit est puni de 5 ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Et lorsqu'un parent se dispense de ses obligations au point de compromettre la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, celui-ci peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Je vous signale qu'Emmanuel Macron remet le masque pour faire de la pédagogie, assume le président en déplacement à Poitiers hier après-midi, mais sans aller jusqu'à remettre l'obligation au moment où la 9e vague de Covid gagne du terrain. Une soixantaine de clusters dans des maisons de retraite, d'ailleurs, selon les infos de RMC.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Et c'était long, 2 jours sans match à la Coupe du Monde. Ça reprend aujourd'hui avec les 2 premiers quarts de finale, Croatie-Brésil à 16h, Pays-Bas-Argentine à 20h, Brésiliens et Argentins qui rêvent de se retrouver en demi-finale pour un match de gala et qui mettent l'ambiance d'ailleurs dans les rues du Qatar. C'est ce que nous confirme Martin Bourdin, l'envoyé spécial de RMC.
Se promener dans les rues de Doha sans croiser un maillot du Brésil ou de l'Argentine relève de l'exploit. Les supporters des deux nations sont partout, se font entendre. Ils discutent même parfois entre eux. Des rires, des sourires partagés parce que tous ont le même avis. Leur quart de finale respectif, tout à l'heure, ne sera qu'une formalité.
Je suis très confiant, le Brésil va gagner 2-1.
Je suis sûr à 95% que l'Argentine va s'imposer.
Ce qui les intéresse tous, c'est le match d'après, la demi-finale.
On va jouer avec Brésil. On va jouer avec eux.
C'est mon rêve de jouer contre l'Argentine en demi-finale.
On veut jouer contre eux et les renvoyer chez eux.
Mais il y a quand même beaucoup de respect entre eux, explique André, maillot du Brésil sur les épaules.
On est voisins, on vient de pays en développement et on se ressemble. On a tous fait de gros investissements pour venir ici supporter nos équipes.
En attendant de savoir qui est la meilleure équipe, c'est une bataille de champs de supporters qui se déroule dans les rues. Dans son maillot rayé ciel et blanc de l'Argentine, Pedro veut envoyer un message.
On est 45 000 à chaque match. Les fans argentins sont les meilleurs au monde.
Et ça, ils vont essayer de le prouver, tout comme les Brésiliens, dès aujourd'hui avant le début des quarts de finale.
Voilà l'ambiance avec Martin Bourdin, l'envoyé spécial de RMC au Qatar. Les Bleus ont préparé les coups de pied, ils ont travaillé les coups de pied arrêtés hier à l'entraînement dans leur préparation du quart de finale contre les Anglais demain soir à 20h. Et on a peut-être le nouvel hymne des Bleus ce matin. Gilbert Montagnier qui détourne ses Sunlight des Tropiques à la gloire de Kylian Mbappé. Donc avec cette chanson, à mon avis, on va l'entendre à nouveau durant cette coupe.
Moi, j'adore. Je trouve ça extrêmement sympa. J'aime beaucoup. Le Quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
Ce soir, RMC découverte. Ce soir à 20h15, le 8, le 6, les pronos ce matin de la Dream Team des courses. Le 8 en favori, Grit of Madrid. Le 6 en outsider, Gay Printemps.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h37. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer pour le coffre RMC à 8h20 tout à l'heure. Il y aura un gagnant, quoi qu'il arrive. Et le gagnant, il aura au minimum une Nintendo Switch et peut-être même une PS5. Vous vous inscrivez, vous envoyez coffre au 7 32 16. Et
75
puis...
centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Voilà, ça c'était donc pour le SMS que vous envoyez pour gagner. Bonne chance à tous.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Les négociations commerciales entre les industriels et les enseignes de la grande distribution ont lieu en ce moment. Et ça coince, véritable guerre des prix. C'est ce que nous raconte Jean-Philippe André. Il représente tous les industriels de l'agroalimentaire et il sera dans ce studio dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h40 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil, très belle matinée à tous.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Jean-Philippe André. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale des industries alimentaires et président d'ailleurs de Haribo France, le fameux fabricant de bonbons. En fait, vous représentez tous ceux qui sont entre les agriculteurs d'un côté et la grande distrib de l'autre. Et en ce moment, eh ben vous êtes tous les trois, justement, ces trois groupes-là, autour de la table, en train de négocier les prix. Et ces négociations, elles sont tendues.
Elles sont tendues, ça c'est pas un scoop, parce que traditionnellement c'est tendu dans notre pays. Elles sont marquées par un facteur nouveau, on en a déjà largement parlé d'ailleurs chez vous. Jusqu'à présent, on avait des augmentations de matières premières alimentaires. Je rappelle qu'on est au petit déjeuner, si vous avez un paquet de gâteaux, vous avez le sucre qui a augmenté, la farine, les œufs, voilà, l'emballage. Et l'élément perturbateur qui s'est invité sur les dernières semaines, et on en parle beaucoup, c'est l'énergie. Donc, on a ce
facteur. En fait, les produits coûtent cher et les fabriquer coûtent cher. Les cuire, les...
Nous, on est le métier de la nourriture, d'accord ? Donc, vous n'avez pas le choix, d'acheter les matières premières, d'acheter l'emballage et d'acheter l'énergie. Ou alors, vous avez le choix de ne pas produire, ce qui n'est absolument pas une option en ce qui nous concerne. Et donc, l'équation qui a à régler aujourd'hui, c'est de dire comment on fait raisonnablement. Parce que tout ce que je vous raconte là est avéré, justifié, c'est sur la place publique. Comment on fait pour que la réalité économique de l'entreprise puisse être transcrite dans les tarifs et en définitive dans les prix.
La réalité de l'entreprise est en même temps soutenable par les consommateurs, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur entre ce qui est nécessaire pour vous, parce que techniquement, mécaniquement, j'allais dire, vos prix augmentent, et si je vous entends, ils vont continuer à augmenter, et en même temps, de l'autre côté, est-ce que le consommateur est prêt à payer, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il a les capacités de continuer à payer. On parlait de 12% d'augmentation des prix dans l'alimentaire, 17% sur les produits frais. Là, vous vous en êtes à peu près à combien? Comment vous voyez les choses aujourd'hui et surtout dans 6 mois?
Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est aux alentours de 13% sur la partie alimentaire. C'est pas une consolation. En Allemagne, le même panier est à 19%. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a cette différence? La deuxième chose, c'est que de temps en temps, on pointe du doigt les marques. Il faut noter, et tout le monde le constate, d'ailleurs, que nos clients, que ce soit Monsieur U, Monsieur Intermarché, Monsieur Carrefour, eux-mêmes sont fabricants, d'ailleurs, de produits.
Ils font les produits de marque.
Quand sur un paquet de pâtes, vous avez une augmentation depuis le début de l'année de l'ordre de 14 à 15%, vous avez 19 à 20% d'augmentation sur les marques distributeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité. Eux-mêmes sont obligés de faire ça.
Oui, mais enfin, à l'inverse, j'avais reçu ici même, à ce micro, le patron des Intermarchés, qui est un peu plus discret dans les médias, mais qui tout d'un coup est venu en disant, écoutez, moi, il faut qu'à un moment, je dise les choses. Si on n'a plus de bouteilles d'Evian dans nos rayons, bah, c'est tout simplement parce que Evian nous demande des hausses de 22%, alors que nous, qui produisons notre propre eau, on sait que, pareil, on a aussi des augmentations du prix du plastique, des augmentations du prix du transport, mais ça rentre dans les clous d'un 10%. Et résultat, Intermarché ne paye pas et n'a plus d'eau d'Evian dans ses rayons. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je pense que l'inflation, c'est un phénomène qui est nuisible pour tout le monde. Pour nous,
mais chacun se rejette un peu la faute et dit, si vous écoutez Leclerc, il dit que c'est de votre faute et que vous vous gavez au passage. Si vous écoutez les agriculteurs, ils disent, bah, nous, on s'en sort pas.
Sur le point de gaver au passage, Bruno Le Maire avait même demandé une enquête à l'Inspection Générale des Finances, où manifestement, un, il n'y a personne qui, je reprends votre expression, qui se gave. Au contraire, on constate même que
on a même perdu de la marge. Au contraire, vous avez plutôt fait des efforts.
Je ne sais pas, c'est un doux euphémisme, faire des efforts quand on dit perdre 10 points de marge. La chose importante aujourd'hui, c'est de faire en sorte, un, qu'on n'ait pas à arrêter de produire. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, vous avez l'actualité, c'était autour d'une grande société. Et je note d'ailleurs que ce phénomène ne touche pas que les PME, les TPE. Le cas de William Sorin, puisqu'on peut en parler.
William Sorin qui a donc mis certaines de ses usines à l'arrêt. Hein.
Oui, mais c'est quoi? On appelle ça une ETI. La traduction de ETI, c'est de belles, grandes, belles entreprises françaises qui peuvent être mises à risque en ce moment. Donc il faut faire en sorte...
Il faut le dire, hein, les salariés de William Sorin en ce moment sont au chômage technique.
Bien sûr.
Pourquoi? Alors prenons le cas, si on regarde le cas William Sorin, c'est quoi? C'est le prix de l'aluminium pour fabriquer les boîtes de conserve? C'est le prix de l'électricité? C'est quoi? Qu'est-ce qui entraîne à ce que William Sorin, une entreprise comme William Sorin, soit obligée de mettre sur pause sa fabrication de boîtes de conserve?
Indépendamment de tout ce qu'on a dit sur les hausses qu'on a déjà constatées sur les matières premières, vous ne faites pas face impunément à une multiplication par 10 de votre facture énergétique. Et je reprends l'exemple. Que vous soyez un petit boulanger, quand vous passez de 2000 à 9000 euros de facture, et quand vous avez un laitier que j'ai eu hier à l'appareil du Finistère, qui passe de 10 à 30. Les chiffres varient en proportion, en euros, mais le choc est bien le même. Et donc, il faut absolument faire en sorte que ceci puisse être pris en compte. Et quant à l'inflation, je voulais dire un mot là-dessus, personne n'a le monopole de la compassion ou de la compréhension sur le consommateur final. Nous-mêmes, il faut qu'on fasse très attention. Et je pense que le cycle, vraiment le cycle économique auquel il faut revenir, c'est d'avoir cette réalité de manière à ce que... Nous, on a 450 000 salariés. Pensez bien que le salarié, quand il arrive le matin, il dit, j'ai une inflation à 6%, je veux avoir aussi des augmentations de salaire. Donc, pendant cette période qui est complètement atypique, il faut qu'on arrive à reboucler complètement le cycle en disant, on passe la réalité et on va pouvoir augmenter
les personnes. Ça veut dire que si je vous écoute, Jean-Philippe André, je dois anticiper qu'il va y avoir encore une hausse des prix. C'est pas fini. Et même si je vous écoute, vous le souhaitez, parce que mécaniquement, sinon vous ne rentrerez pas dans vos frais.
Personne ne souhaite une hausse de prix. Nous, on souhaite une réalité des tarifs. Je pense qu'aujourd'hui, dans les tarifs, pour aller dans votre sens, vous n'avez pas encore la facture énergétique. Et ça, c'est en début
d'année. Alors ça, on vous entend tous, hein, je veux dire, à la fois les très gros industriels de l'agroalimentaire comme vous, mais aussi, en effet, l'artisan, commerçant, le boucher, le charcutier, le boulanger,
le combat est le même.
Qui disent tous, en janvier, c'est un mur qui nous attend.
en termes de d'impact.
Parce qu'il va y avoir ces fameux changements de contrat d'électricien.
Absolument. Et je vous dis, on parle sur certaines matières premières, on parle en augmentation en pourcentage. Là, on parle de multiplier par 3, par 4, dans les cas atypiques, par 10.
Pour l'instant, il y a des pauses. C'est le cas de William Sorin, on y revient. Est-ce que vous vous inquiétez qu'il y ait plus que des pauses, c'est-à-dire carrément des faillites?
Nous, produire, ce n'est pas une option. On interroge cependant nos adhérents. Faillite, il ne faut pas crier au loup, je crois que c'est, il ne faut absolument pas, ça ne serait pas raisonnable. Ce qu'on commence à entendre comme petite musique, c'est de dire, si je dois faire des arbitrages dans mes gammes, je vais devoir les faire, parce que personne, dans aucun pays, ne peut produire à perte. Et la deuxième chose, c'est si je dois me mettre sur pause, ce que vous dites, peut-être, si je suis contraint, je vais le faire. Pour l'instant, il n'y a pas de faillite en perspective.
Encore un mot sur les coupures de courant. Vous ne faites pas partie des prioritaires. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que s'il y a des délestages pendant 2 heures, les usines agroalimentaires s'arrêteront.
Bon, moi, je veux pas faire de hiérarchie dans les métiers, importants ou pas. Mais on pourrait comme dire aux gens qui nous écoutent, on est à l'heure du petit déjeuner, entre se soigner et nourrir, on doit être parmi les plus importants. On n'est pas considéré comme prioritaire. Il y a des arbitrages qu'on respecte. Mais vous comprenez bien que arrêter une usine pendant 2 heures ou arrêter un frigo ou une vitrine réfrigérée pendant 2 heures, c'est pas possible. Donc, il va y avoir des phénomènes de process. Je pense qu'avec tout ce qui est mis en place actuellement, j'espère en tout cas qu'on passera à côté parce que c'est pas envisageable pour nous.
Cette inquiétude, notamment sur la chaîne du froid, évidemment, qui est une de vos inquiétudes phares. Je rappelle les augmentations de prix. La farine, elle a pris 11,6% pour les marques nationales, 24,3% pour les marques distributeurs.
Absolument.
Les huiles qui ont considérablement augmenté aussi, les pâtes également. Et vous parliez du sucre. Et vous savez de quoi vous parlez puisque Jean-Philippe André, parallèlement, vous êtes aussi le patron de Haribo France. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous représentez tous les industriels de l'agroalimentaire. Il est 7h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La France et l'Angleterre qui s'affrontent demain en quart de finale de la Coupe du Monde du Qatar. Une affiche très particulière parce qu'en dehors du sport, la France et l'Angleterre ont une longue histoire de rivalité. Les explications de Nicolas Poincaré.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles, le rappeur Jul qui sort aujourd'hui son 26e projet et ça vous fait plaisir.
Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. Elle voudrait que j'y passe la bague à la Manita. J'ai loué la 458 Italia. Moi je suis comme maman, des fois j'écoute Dalida.
Artiste ultra prolifique qui publie donc aujourd'hui Cœur Blanc, double album aux accents très internationaux. Après avoir rassemblé tout le rap marseillais sur bande organisée, invité les Parisiens sur le classico organisé, voici la version mondialisée de Jul. 19 artistes venus du monde entier sont invités sur ce projet. Le premier clip a été dévoilé hier soir, déjà en tête sur toutes les plateformes. Il s'agit du titre éponyme de l'album Cœur Blanc.
Pourront pas me déstabiliser, ouais, je suis comptabilisé. J'ai un grand cœur blanc et ils ont du mal à m'accepter comme destin de Lisa. Je préfère m'acheter une vie sur la mer qu'une vue à l'église.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, excellent réveil à vous tous.
Expliquez-nous.
Alors pour tout vous dire, c'est l'heure de Nicolas Poincaré, mais à 7h52, Nicolas n'est pas là. Il est censé être quelque part dans le couloir, il devrait arriver dans un instant. Il va nous parler de la France et de l'Angleterre, vous en avez déjà parlé ce matin Charles.
Mais oui, évidemment, parce qu'il y a cette quart de finale demain, et on a parlé ce matin de l'aspect de la rivalité sportive entre nos deux pays. Alors c'est surtout au rugby, le fameux crunch, mais il y a eu quelques matchs aussi de foot ces dernières années, et puis évidemment ce qu'on attend tous. Désormais, c'est cette rivalité presque historique entre les deux pays, parce que c'est bien plus que du sport, cette rivalité franco-britannique.
Et il est 7h53, on m'annonce un Nicolas Poincaré qui devrait arriver en courant dans ce studio. Bonjour Nicolas, vous savez que c'est votre heure là. Il est 7h53, comment ça va?
Pas mal.
Pas mal, vous allez nous parler de France-Angleterre? Vous papotiez dans les couloirs? Allez Nicolas, les explications. La France et l'Angleterre qui s'affrontent demain en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Une affiche très particulière parce qu'en dehors du sport, la France et l'Angleterre ont une longue histoire de rivalité.
Et c'est peu de le dire, les Français et les Anglais se détestent depuis au moins 1000 ans. En France, au Moyen-Âge, fils d'Anglais était la pire des injures. Ensuite, on leur a dit merde à Waterloo. Le général Cambronne leur a dit merde, donc pour signifier qu'ils refusaient de se rendre. Quant aux Anglais, eh bien, ils ont toujours considéré que les Français étaient malhonnêtes, tricheurs, querelleur, cynique, arrogant, râleur et surtout sale. Il y a en anglais d'innombrables blagues sur notre hygiène douteuse, l'hygiène des froggies, des grenouilles.
Les froggies, les grenouilles, une rivalité, Nicolas, qui vient de toutes les guerres que nous nous sommes livrées.
Oui, peu de pays dans le monde se sont plus fait la guerre que les Français et les Anglais. On ne risque pas de l'oublier quand on va à Londres, puisqu'on arrive à la gare de Waterloo. Tout a commencé il y a 1000 ans, lorsque Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, s'est installé sur le trône du roi d'Angleterre. C'est la seule fois que les Anglais ont été envahis et battus militairement sur leur île, et donc forcément, ça les a marqués. 200 ans plus tard, Édouard III a pris sa revanche. C'était un roi anglais qui ne parlait qu'une seule langue, le français, mais qui a conquis l'Aquitaine et lancé la guerre de 100 ans. Pendant laquelle Jeanne d'Arc.
C'est à ce moment-là que notre Jeanne d'Arc est donc arrivée. Jeanne d'Arc qui a tenté de bouter les Anglais hors de France.
Et tout cela, forcément, ça laisse des traces, sans parler de l'affaire, la fameuse affaire des bourgeois de Calais. Je vous rappelle comment, quand même, les faits. Les troupes du roi d'Angleterre encerclent Calais et proposent d'épargner la population à condition que les 6 principaux bourgeois de la ville se rendent à eux en chemise, pieds nus et la corde du cou pour être pendus. Finalement, ils seront épargnés, mais ça s'est passé il y a 675 ans et on en parle encore, on enseigne encore dans les écoles françaises cette histoire d'une humiliation que les Anglais nous ont fait subir.
Oui, la fameuse histoire des bourgeois de Calais. Et puis, les guerres franco-anglaises, elles ne se sont pas arrêtées avec la guerre de 100 ans.
Non, les Français et les Anglais sont encore affrontés un peu partout dans le monde. Les Français, avec Lafayette, ont aidé les Américains à prendre leur indépendance. L'armée anglaise a été battue à la bataille de Yorktown, ce qui a entraîné pour eux la perte de l'Amérique, leur plus importante colonie. Et le traité qui a reconnu l'indépendance des États-Unis, il a été signé où ? À Paris, ce qui pour le coup était encore une humiliation, mais cette fois pour les Anglais.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette rivalité ?
Alors, il reste des conflits commerciaux. On l'a vu après le Brexit, la France a été en première ligne pour demander un accord dur si les Anglais sortaient de l'Europe. Le conflit sur les zones de pêche dans la Manche a été violent. Les Anglais nous reprochent aussi de ne pas en faire assez pour lutter contre l'immigration clandestine à partir de Calais. Il reste des agacements mutuels. Les politiques en Angleterre savent qu'ils ne sont jamais plus populaires que lorsqu'ils critiquent la France, et les journaux tabloïds font leur meilleure vente lorsqu'ils insultent la France. Mais il faut quand même rappeler que dans les moments tragiques, la France et l'Angleterre savent aussi se retrouver et s'unir. En 14-18, 760 000 soldats anglais sont venus mourir en France. Le 6 juin 45, les Anglais ont débarqué en Normandie. Et puis beaucoup plus récemment, souvenez-vous, en novembre 2015, 4 jours seulement après les attentats du Bataclan et du Stade de France, un match de foot France-Angleterre a eu lieu à Wembley, à Londres. Les paroles de la Marseillaise ont été projetées en grand dans le stade et 80 000 Anglais ont chanté l'hymne français par solidarité. Ah, c'était magnifique.
Honnêtement,
c'était magnifique. Il arrive donc
les Anglais qui chantent l'hymne français, c'est magnifique.
Et il arrive donc qu'on arrive à ne pas se détester entre les Français et les Anglais.
Nicolas Poincaré, il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.